On y va ? C'est bon, tout le monde est là ?
On attend le générique ?
Pas mal. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Le retour des podcasts sur sens, on n'y croyait plus, avec Julien Falconet. Julien, ça va la pêche, les patates ?
Ça va la pêche.
Nous sommes également avec Antoine. Antoine,
ouais,
ça va la pêche ?
Ça va.
Nous sommes avec Audrey.
Poil de tête couille de merde.
Oui, bon, voilà. Alors, pour expliquer aux auditeurs, il faut savoir que cette phrase rituelle est prononcée par toutes les personnes qui veulent tester les micros ici. Voilà, poil de mes couilles de merde. Merci Audrey de révéler la tambouille à tous nos auditeurs.
Typez le poil de mes couilles de merde.
Non, mais en fait, je vous proposais de faire un gag avant le début du podcast.
Ah mince.
Là, on est dans le podcast. Voilà. Nous sommes également avec Amir. Amir, ça va la pêche ?
Ça va, ça va.
Bon, alors là, ça va être compliqué parce qu'on va devoir jongler avec combien de noms de personnages, là, à peu près
12.
12. Alors, donc, on rappelle, hein, Julien, tu joues Kerry Kadria.
C'est ça, Kerry Advi.
Voilà.
Et qui a décidé de jouer avec
Classis,
un personnage nommé Harder.
Voilà, ça c'est qui, sans H. Hein.
Sans H.
On est bien
exactement.
D'accord.
Oui,
hein,
oui,
il ne s'agit pas de Rocco Siffredi.
Elle a hésité, mais non.
Nous sommes également avec Audrey. Alors, j'ai déjà dit ça, j'ai l'impression de me répéter. Nous sommes avec Audrey. Audrey qui joue Lexa.
Éclat.
Oui, Éclat dans Sens Néant,
ouais.
Tout à fait. Donc Lexa joue Éclat. Alors, c'est ça qui s'est compliqué avec Sens Néant parce que c'est une mise en abîme. C'est-à-dire que les personnages des joueurs de Sens sont invités eux-mêmes à faire avec Classis un jeu de rôle. Donc ce sont des personnages qui jouent des personnages. Donc les noms qu'on est en train d'annoncer là, ce sont les noms des nouveaux personnages que vous avez faits pour intégrer la campagne de Sens Néant maîtrisée par Classis. Amir, tu joues donc, on rappelle, Milan dans la campagne principale, et tu es
Mon Ardent.
Antoine, tu joues Ridger,
l'artiste chaotique.
Voilà, et tu as décidé d'interpréter
Bulle.
Chacun d'entre vous a... Alors, par quoi on commence, quoi ? C'est-à-dire, c'est complètement vaste. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet univers ? Qu'est-ce qu'on fait, là ? À quoi on est en train de jouer ?
Il y a beaucoup de règles.
Il y a beaucoup trop de règles. J'y comprends rien. Il y a trop de calculs.
C'est ça.
Mais c'est les mêmes. C'est juste les noms qui ont changé.
Il y a quasiment pas de calculs là-dedans. Il y a plein de règles différentes, de lignes et de machins. Mais il n'y a pas beaucoup de calculs.
C'est parce que t'as l'habitude des jeux où il y a des tables et des trucs, machin.
Ouais.
Ouais. Ouais. Du coup, il n'y en a pas beaucoup par rapport à Sens, c'est vrai qu'il y a plus de calculs, peut-être.
On joue dans un univers où tout est conscient.
Oui, alors on voit que quand même Audrey a envie de commencer ce podcast, c'est bien. Très bien. Donc effectivement, on joue dans un univers où tout est conscient, tout anthropomorphisé, tout sentimental. C'est compliqué à décrire rapidement dans un podcast cet univers.
Oui, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui parlons là, c'est les micros qui parlent, hein, en fait.
Ah d'accord. Et oui, dans un scénario, en tout cas.
Ils ont déjà deux éléments, donc ils peuvent parler.
C'est ça. Alors, comment on fait pour présenter cet univers ? Qui veut se lancer ? Qui veut commencer ? Peut-être présenter les personnages d'abord ? Et encore, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous jouez ? Que vous jouez comme personnage ? Comme type de créature, j'entends.
On joue des septentriens,
ouais.
Qui sont des types de... myriadien particulier, parce qu'on joue sur une planète qui s'appelle Myriade.
Vous êtes sûr qu'on joue à Sens, là, déjà, pour commencer, ça ?
Et c'est, normalement, ça s'appelle Sens Néant, mais je sais pas, c'est le meilleur jeu qui l'a dit.
Voilà, déjà, il y a quelque chose qui change, c'est l'univers, le cadre du jeu, en fait, qui change par rapport à l'autre, puisque c'est un jeu de rôle auquel vous participez en tant que personnage. Donc, évidemment, l'univers change et on passe plutôt sur ce qui ressemble à être... comment vous décririez cet univers médiéval fantastique ? On ne peut pas parler de médiéval fantastique, ce n'est pas vraiment médiéval. J'adore le silence. Comment présenter cet univers ?
Ah non, c'est compliqué.
Symbolique, ouais. Fantastique ?
Symbolique, fantastique.
Mystique, fantastique.
Mystique, fantastique, pas mal. Onirique,
symbolico, onirique.
Symbolique, onirique.
Ouais, moi je rejoins le symbolico, onirique.
Antoine, je peux toujours compter sur
toi. Alors, qu'est-ce que c'est que Myriade, en fait ? Où est-ce que vous êtes ? Enfin, c'est...
Alors, Myriade, c'est une planète où il y a des extraterrestres, où tous les extraterrestres sont plus ou moins conscients, sont constitués de 1 à 6 éléments. ouais. Qui sont l'eau, terre, l'air, le feu, l'ombre et la lumière.
Ouais.
Plus ils ont d'éléments, plus ils sont complexes, et chaque élément a une intensité, et plus l'intensité est importante, plus ça définit l'élément et les sentiments qui l'animent.
C'est ça, exactement. Vous jouez donc des créatures extraterrestres qui disposent aussi, il faut le dire, quand même de deux sens différents de ceux des êtres humains.
Ça c'est compliqué.
Voilà. Ça, c'est quand même, comment dire, important, on va dire. Vous n'avez ni goût ni odorat, mais par contre, vous avez le mantis et l'alvéa, qui sont deux sens supplémentaires. L'un qui vous permet de capter les sentiments des objets qui sont à portée de rayonnement. Alors, on ne sait pas vraiment encore ce que ça veut dire que ça. Et l'autre, l'alvéa, qui vous permet de voir dans les ombres les choses que vous voulez y voir, les rêves, vos fantasmes, les projections de votre inconscient. Et donc, vous découvrez là le monde, l'univers à travers le prisme de ces étranges persos. À l'aide de rituels, vous pouvez interagir avec le monde. C'est compliqué à présenter. Comment faire simple ?
Alors déjà, pourquoi on est là ? Parce que Classis est censé nous aider à travers ce jeu à mieux comprendre comment vaincre le Kabuki. Donc, jonction sur la fin de sens mort.
Ouais.
On est après une longue histoire où il y a eu un espèce de prophète qui s'appelait Setantra, qui a réussi à réunifier un petit peu la planète et qui a été assassiné par un assassin qui a réussi à se cacher, alors que normalement on ne peut pas vraiment mentir dans ce monde, sauf si on fait appel à une espèce de septième. Élément qui serait l'acide,
ouais.
Et qui permet de se cacher, de mentir. Et donc tout le monde cherche deux choses, à la fois où est passé l'assassin, et à la fois comment avoir un nouveau prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui atteint l'ultime sentiment,
c'est ça,
dire,
c'est ça, ouais.
Et qui soit capable donc de recréer une harmonie entre les éléments fondamentaux et les habitants de la planète.
Voilà, c'est ça. Ouais, pas mal, hein. Et il y en a qui suivent. Hein. C'est...
Ouais, du taf, ouais.
Ouais, c'est pas mal résumé. Alors pourquoi est-ce que je vous interroge comme ça à brûle pour point sur l'univers ? Parce que je trouve qu'au départ, dans Sens Néant, c'est la principale difficulté en fait. C'est on joue à quoi ? Et au final, là, ça fait deux scénarios donc, que vous faites dans cet univers. Et est-ce que vous avez la sensation d'en savoir un peu plus et de comprendre un peu plus quel est votre rôle et votre place dans l'univers ?
C'est clair.
Oui, j'ai compris que toi, tu as parfaitement tout compris. Ça, apparemment, tu arrives à bien le résumer.
C'est juste...
Je suis moins certain pour les autres. Audrey, Antoine ?
Pour moi, l'intérêt particulier de cet univers et ce qui est le plus troublant, c'est qu'il n'y a pas de... C'est un univers dans lequel il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des perceptions
subjectives.
Subjectives.
Ouais.
Et je joue un golem de lumière et d'ombre. Qui n'arrête pas de naviguer sur cet axe entre vérité absolue et vérité subjective, ce qui est plutôt intéressant et mais un petit peu perturbant parfois à interpréter quand même.
Au moment en fait où Setantra découvre les ultimas, il rassemble en fait les Setantriens sous la forme d'écoles de foi. Alors est-ce que tu peux décrire justement les deux écoles qui t'animent là ? Tu me parles de l'école de la lumière, l'école de l'ombre, enfin. Décrire plutôt les préceptes, quoi. Qu'est-ce que c'est la lumière dans Sens Néant ? Ça, je pense que c'est... vous avez à peu près compris.
La satisfaction, la concentration, la fierté, l'émerveillement, la rigueur, l'extase, la vénération, l'espérance.
Ah, j'aurais dit
la vérité.
Le savoir, la vérité.
Le savoir et la connaissance aussi, ouais.
Et donc, opposé à l'ombre qui représente ?
La fiction, la culpabilité, la division, l'égarement, la fragilité, la perplexité, l'amour, le scepticisme, le doute, l'égarement.
Le rêve.
Et donc les Setantriens sont des cultivateurs de sentiments en fait, un peu comme des gens qui feraient pousser en fait des sentiments sur leur propre sol quoi, sur leur propre personne. Et donc en fonction de l'école que vous suivez, vous cherchez à suivre en fait un élément donné dont vous cherchez à respecter la couleur. Donc là tu as dit déjà ce qu'était la lumière, l'ombre. Est-ce que d'autres veulent se lancer dans le feu, l'eau ? C'est
Alors je vais parler de l'eau,
ouais.
Qui est plutôt le calme et la quiétude. Et aussi, ce sont des personnages qui sont beaucoup sur l'analyse et à qui on demande un éclairage souvent sur le jugement, pour mettre en balance des éléments l'un vis-à-vis de l'autre pour essayer d'en tirer des conclusions ou une décision par rapport à ça.
Donc ce sont des spécialistes de l'équité,
de la diplomatie.
De la diplomatie et compagnie. Alors que le feu, par exemple, c'est donc du coup...
Le feu, c'est ce qui est cool, forcément.
c'est ça, parce que c'est ton personnage.
Exactement.
D'accord.
Et donc, c'est tout ce qui est l'enthousiasme, l'ardeur, la combativité, la violence, le fait d'agir sans réfléchir. Bref, tout ce qui est très libérateur pour mon personnage quadrillage de vie.
Voilà, c'est ça.
À jouer.
Tu as choisi, en fait, de jouer un personnage très opposé au personnage de sens que tu interprètes.
Exactement.
Donc le feu, c'est plutôt effectivement des septentriens qui se construisent dans la confrontation, etc. Il nous reste la terre et l'air qui veut se lancer. Alors la terre, c'est toi, Amir, qui fait le golem de terre, donc Mont Ardent.
Tout à fait.
Mont Ardent qui évoque à la fois le feu et la terre, parce que ce sont tes deux écoles dominantes.
Mais la terre, beaucoup plus que le feu chez moi. Donc la terre, c'est la stabilité, l'endurance, le... Mais pas seulement physique, mais également émotionnel, bien sûr. J'ai pas mes notes avec moi, mais voilà. Toutes ces choses-là.
La fidélité aussi. Les gens sur qui on peut compter, en fait.
La loyauté, effectivement. Ouais. Donc voilà, ce sont un peu les caractéristiques de mon personnage, bien entendu. Mitiger un petit peu de feu pour un petit peu d'enthousiasme et d'exubérance. J'ai encore un peu de mal à jouer.
Si, tu le joues bien dans l'aspect confrontation, t'es combatif quand même.
J'essaie de le faire, mais et comme c'est moins fort chez moi que chez Ardeur.
Mais si, tu ripostes quand je t'attaque.
C'est ça.
Oui, voilà, ça semble moins forcément, mais toi, t'es cet entra du feu directement, alors que toi, ce n'est que ton élément secondaire, si
tout
je veux
dire. Tout à fait.
Ce qui est quand même important. Donc voilà, les septentras sont définis par leurs sentiments et en même temps par les éléments qui les composent, en fait. Et vous avez différents rituels qui vous permettent d'interagir avec l'univers et d'enrichir, en fait, des personnages dont vous vous rendez maître. On appelle ça des personnages qui sont apprivoisés. En fait, vous vous rendez moins maître d'eux que amis avec eux. Et donc, ils deviennent vos alliés.
Oui, un peu comme les renards, quoi.
Un peu comme les renards, tout à fait. On retrouve des thématiques, effectivement, de sens. Alors... que dire ?
C'est génial.
Fin du podcast, on va pouvoir couper maintenant les micros, je pense. Alors pourquoi, qu'est-ce qui te plaît dans cet univers ? Pourquoi tu dis spontanément ?
Je trouve que les rituels sont vraiment un outil qui change complètement la manière dont on a l'habitude d'intervenir en jeu de rôle. Parce qu'il nous est proposé un canevas clair sur le fait de comment modifier l'univers dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que là où dans un jeu de rôle traditionnel, on se retrouve à galérer, à faire selon au bon vouloir du meneur de jeu, d'une certaine manière, pour décider de se lier ou pas avec des PNJ, là on a des règles claires, on va échanger, on va donner un peu de son énergie vitale, son énergie symbolique à un objet pour en venir à créer un lien avec, qui devienne un peu plus un reflet de soi-même. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à l'apprivoiser. Alors
ça, c'est un truc très intéressant que tu glisses comme ça au détour de cette phrase. C'est que contrairement aux personnages de sens qui sont définis par des faits, les personnages de sens néant sont définis par des liens. Or, vous savez que dans Sens Mort, vous avez rencontré effectivement ce personnage du renard qui vous a appris à utiliser, à ajouter en fait un nouveau système de sens dans Sens Mort, qui est le système des liens. Et là, en fait, vous êtes débarrassé finalement des faits et vous n'êtes que des liens. Et donc, c'est de ça dont tu parles, Julien, savoir qu'on peut comme ça donner des liens à des personnages. Alors, Antoine, tu avais l'air de trouver que les rituels, justement, c'était pas forcément quelque chose de très...
Non, mais c'est
nouveau.
C'est pas ça, c'est que ça a trait beaucoup à ma manière de jouer, à ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que pour moi, les règles ne sont qu'un moyen de trouver une solution à une situation qu'amène le joueur. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à jouer en tentant des choses, et ensuite en voyant comment on peut les résoudre par les règles. C'est-à-dire que moi me dire, les rituels vont me permettre... de faire des choses claires, de construire de la fiction, etc. Moi, c'est le contraire. C'est, je construis de la fiction et on voit comment on applique les règles sur la fiction que je construis. J'ai l'idée de, tiens, je vais tenter de lire les pensées de cette personne-là Est-ce qu'on a une règle pour gérer ce cas-là ou juste tu me dis c'est impossible et passe à, et trouve une autre idée. Donc je trouve que la ritualisation telle qu'elle est notée, moi, elle m'aide pas dans la création de la fiction. Et je peux comprendre que ce soit qu'on puisse penser autrement et que ça puisse être un support. Maintenant, dans ma manière de jouer, dans ma manière d'appréhender le jeu de rôle. C'est absolument pas ça. Pour moi, la règle, c'est plus une contrainte ou quelque chose qui a trait au MJ et au moteur qu'il a derrière que moi, quelque chose qui va me limiter dans ma création.
Audrey, puis Julien.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Antoine. C'est aussi comme ça que j'aime jouer et que je joue, et c'est comme ça aussi que je masterise d'ailleurs.
Donc, c'est que la fiction, si j'ose dire, est première.
La fiction vient en premier. Voilà. Ouais.
Et ensuite, en fait, on comprend les règles, les mules, en fait.
Tout simplement parce que moi, mon plaisir de MJ ou de joueuse, il est dans la création de la fiction ou dans la co-création de la fiction. Il n'est pas tellement dans le système de règles, en fait. Je reconnais qu'il en faut un et que ça a plein de bonnes propriétés, mais pour moi, ça arrive en second.
Et juste pour aller jusqu'au bout de ce développement-là, puis ensuite je donne la parole à Julien, et vous trouvez donc que dans Sens Néant jusqu'à maintenant, le système, si j'ose dire, la mécanique est trop présente par rapport à la dimension fictionnelle qu'il apporte, si je comprends bien.
Elle est, à mon sens, par rapport à ma façon de voir les choses, pour moi elle est trop présente dans le sens où on a utilisé beaucoup de temps, qui aurait pu être du temps de jeu et du temps de co-création, à l'explication de ces règles et à la mise en place de comment ces règles peuvent marcher. Moi, ça ne me dérange pas de me lancer dans un univers à partir du moment où j'ai compris les tenants et les aboutissants de cet univers-là dans la fiction, de me lancer dedans sans connaître une ligne de règles. Et ça ne m'empêchera pas de m'amuser pour autant. Alors, je ferai peut-être des choses qui ne sont pas optimisées dans la fiction, je me prendrai peut-être des coups là où, si j'avais connu les règles, j'en aurais pas pris. Mais tant pis, c'est pas grave, ça amènera du jeu et ça amènera d'autres fictions. D'échouer amènera d'autres fictions. Donc, ça ne me pose pas de problème en soi de ne pas connaître les règles, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est surtout que ça a le mérite d'amener des idées bizarres et originales aussi. C'est-à-dire que le problème des règles en premier, c'est que ça donne un peu un carcan à ton imaginaire aussi, tu vois.
Ouais.
Alors que
quand
tu te lances dans l'univers, tu te lances dans une création imaginaire et que ça vient en premier, tu peux avoir des idées complètement rigolotes, tout à fait aberrantes, qui peuvent aussi enrichir ou foutre la merde, on est d'accord, mais qui sortent vraiment de ce qui était prévu. Tu vois.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et voilà. Donc ouais, moi aussi la première partie.
Tant qu'on est dans le respect du canon.
Ouais.
Voilà.
Julien, tu voulais intervenir.
Alors, sans rentrer dans le débat, les règles avant la fiction avant la règle. Pour le coup, là, je suis pas du tout d'accord parce que du tout parce que en l'occurrence.
Il y a vraiment pas de surprise là.
En l'occurrence, c'est pas tellement les règles, c'est qu'on joue des aliens qui ont pas les mêmes sens et qui ont pas les mêmes possibilités d'action. Donc c'est comme si ils n'avaient pas les mêmes yeux, ils n'avaient pas les mêmes bras. Donc forcément, il y a besoin de faire cette transposition, qui est une transposition qui est très rarement faite en science-fiction, où en science-fiction, on a toujours des anthropomorphes qui ont globalement les mêmes sens, les mêmes mouvements, la même force, la même taille, etc. que les humains. Et là, justement, je trouve ça... On ne perçoit pas les mêmes choses, on ne communique pas de la même manière, on n'agit pas de la même manière sur le monde. Et ce n'est pas tellement une question de règles, c'est vraiment une question de définition de qu'est-ce que ces créatures étranges que sont les Sotentriens peuvent faire. Mmh. Et je trouve que ça a un impact, parce que quand même on anthropomorphise derrière en imaginant des relations, en imaginant des choses comme ça, et donc on peut faire des transpositions, et ça change la manière dont on interagit avec le monde, et c'est pas tellement la question combien de points ça va coûter pour créer un lien avec un objet, c'est la question de, tiens, je peux décider d'insuffler de l'énergie vitale ou existentielle ou peu importe, dans un objet pour créer un lien avec lui. Je peux décider de m'infiltrer dans les souvenirs liés à quelqu'un et d'escalader dans ces souvenirs-là. Et ça, c'est des mécaniques qui sont très nouvelles et qui sont l'équivalent avant de se faire des amis et de lire la pensée des gens, mais dans un canevas dans un canon qui est complètement différent et qui n'est pas tellement une question de priorité de la règle sur la fiction. C'est simplement une autre... C'est des règles de fiction pour moi.
Amir, excuse-moi, Antoine, excuse-moi,
tu peux avoir aussi des références culturelles qui permettent de t'appuyer là-dessus. Je pense notamment beaucoup aux objets et aux liens que tu peux tisser avec les objets. Ambre, typiquement, se retrouve complètement là-dessus. Et moi, je me sers de cette culture que j'ai sur les bouquins de Zelazny pour
comprendre
et appréhender les liens que tu peux avoir avec un objet que tu forges, quoi.
Alors exactement. Alors en fait, ici, ce que vous êtes en train de dire et qui est vraiment une tension inhérente en fait à Sens Néant, hein, c'est vraiment quelque chose, une discussion qu'on retrouve, je pense, autour de toutes les tables de Sens Néant. Je n'ai jamais connu vraiment une table, même par témoignage, dans lesquelles cette discussion n'avait pas lieu. En fait, c'est une discussion sur l'apprentissage. Comment on apprend à entrer dans un univers qui n'est pas le nôtre ? Et il y a ce débat aussi, par exemple, sur le Val. Il y a des gens qui disent, le Val, ce serait vachement bien d'avoir les règles sans la fiction, d'avoir uniquement les règles, et hop, on joue au jeu et on comprend la fiction à travers les règles. Et d'autres qui disent, non, moi, je veux l'histoire, et comme ça, je comprends les règles. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on a ici les deux points de vue qui s'opposent, mais qui ne s'opposent pas, en fait, qui sont complémentaires. C'est-à-dire, il y en a qui disent, moi, pour apprendre, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire, et un autre qui dit, moi, pour apprendre, j'ai besoin qu'on m'explique d'abord les règles. C'est-à-dire, c'est vraiment deux visions, j'ai envie de dire, je vais exagérer un peu, mais la position de Julien qui serait celle de l'ingénieur, qui veut d'abord comprendre la machine, et ensuite, comprenant la machine, il joue avec, et la position du littéraire qui lui est plus dans, il veut savoir comment on rêve dans la machine, et ensuite, utiliser le truc, c'est ça, c'est l'apprentissage, j'ai envie de dire, les gens qui apprennent dans les livres, qui apprennent en lisant, et les gens qui apprennent en jouant.
En faisant,
voilà, c'est ça. Et vous êtes vraiment dans ce cadre-là, et c'est ce que je vous ai dit dès le départ. À savoir, Amir, tu voulais intervenir avant.
Je voulais juste dire, parler de moi, tout simplement.
Ah oui, justement,
moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je n'arrive pas à maîtriser totalement, uniquement par les règles ou uniquement par l'histoire. J'ai besoin de passer de l'un à l'autre,
ouais,
et ainsi d'augmenter en compétences dans les deux.
Ça, c'est ça. Donc toi, du coup, ce va-et-vient en fait entre les deux te
m'intéresse. J'ai eu du mal avec juste l'histoire au début. Après, juste les règles, je ne comprenais pas très bien.
Ça, c'est intéressant.
Et peu à peu, en passant de l'un à l'autre sans arrêt, j'ai mieux maîtrisé.
Alors,
je commence à comprendre.
Ce qu'il faut dire, c'est que ça fait deux week-ends qu'on essaye de commencer Sens Néant en réalité. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, le premier week-end, je vous ai expliqué toutes ces règles par l'histoire. Seulement, je me souviens très bien de la position d'Amir ce week-end-là. Amir, ton problème, c'était que tu me disais, moi, quand on me lit un truc, je m'endors. Ça m'endort quand on me lit un truc.
Il y a ça en plus.
Donc,
si je ne lis pas moi-même, c'est encore plus compliqué pour moi. Oui.
Quand j'expliquais les règles par la fiction, je me souviens qu'Amir avait du mal à se concentrer. Là où vous deux, moi, je me souviens d'Audrey qui avait les yeux qui pétillaient, qui disait, on joue quand ? Alors, et on n'avait pas pu jouer finalement ce week-end-là parce qu'il y avait eu tellement d'explications fictionnelles que ce n'était pas possible. Là, cette fois-ci, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai pris le pari de prendre les choses différemment et justement de commencer par les règles. Pourquoi j'ai fait ça ? Pas par malice, pour me dire on va voir qui est-ce qui suit cette fois et qui c'est qui suit pas, mais plutôt parce que je pensais que ça irait plus vite par les règles en fait, et que ça vous rappellerait l'histoire que je vous avais racontée l'année dernière. Ça fait quand même un an qu'on ne s'est vu. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, c'est-à-dire qu'au final, Audrey et Antoine sont restés complètement à la porte en attendant l'histoire à nouveau en fait. Vous avez presque envie que je re-raconte ce que j'avais raconté le week-end d'avant. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi ces deux positions un peu différentes.
C'est pas grave, hein, Romaric. Au bout d'un moment, on a un peu décroché, on a commencé à se raconter des histoires, nous.
Oui, voilà, mais tant mieux. Et c'est bien. Et je pense que maintenant qu'on a commencé à jouer, vous voyez un petit peu mieux quand même où les rituels vous mènent et où ces règles vous mènent. Non, elles commencent à prendre du sens, ces règles, Antoine et Audrey. Ah non, pas encore. Je te vois lever les yeux au ciel, Antoine.
C'est pas ça. C'est, je m'aperçois que les idées que je peux amener dans la fiction arrivent à être pilotées par les règles.
Et
ça me convient bien, c'est-à-dire je dis bon ben voilà, je veux me lier à une créature, qu'est-ce qu'il faut, comment on se fait, et là on fait un débrief des règles. En pratique, ben tu claques des points ici et tu claques des points là, ok, et on retourne dans la fiction tout
d'accord
de suite après.
Ok, ouais, d'accord, ça marche, ouais. Ok, Audrey puis Julien, je sais pas, Audrey, tu voulais ajouter quelque chose? Alors Julien,
moi au contraire, ce que je trouvais, enfin au contraire non, dans cette lignée-là, je trouve que les règles ajoutées, en tout cas les pouvoirs ou les rituels, peu importe, et l'alvéa, donnent une dimension extrêmement, presque de position d'auteur au joueur. Parce que dans les ombres, avec l'alvéa, on voit ce qu'imagine notre personnage, Et donc, on est dans une posture de création, enfin, dans une posture d'auteur.
Effectivement, c'est le joueur qui a la responsabilité sur ce que pense son personnage, et donc c'est au joueur de décrire ce qu'on appelle ses ombres.
C'est ses rêves, ses fantasmes, c'est ça. Donc ça, c'est une posture de création. Ça, je pense que pour certains joueurs, peut-être pas après deux campagnes, mais pour des joueurs débutants, je sais que c'est difficile. Ce genre, ou pour des joueurs trop habitués à se laisser mener par un meneur de jeu.
Ça peut être très simple. Hein. Je te demande à quoi tu rêves, tu me dis je rêve d'Azilis. Point. D'ailleurs, il y a eu plusieurs moments où... Oui, c'est toi, je crois, Amir, qui a fait des descriptions.
Oui. Avec mon personnage du feu, j'ai des rêves simples. Mais c'est une posture, c'est quand même une posture de création.
Ouais.
C'est quand même une posture de création. C'est une posture où on reprend la main sur la narration, même temporairement.
Alors n'oublie pas que c'est censé être le troisième sens.
Oui, tout à fait.
C'est pas un jeu pour les débutants. Théoriquement, ça fait déjà deux campagnes de jeu de rôle que tu te tapes pour.
Tout à fait, mais
là.
C'est quelque chose qu'on faisait pas avant. Avant, on était limité par ce que pouvait faire notre personnage, et là, d'un seul coup, il peut beaucoup plus.
Oui.
Et les différents rituels permettent beaucoup plus. Même si jamais on est nous sensible à si on est le sujet d'une lecture, c'est à nous de raconter ce qui se passe dans notre monde intérieur. Est-ce que notre larme se décompose en scènes que les autres qui permettent aux autres de comprendre qui on est.
Devenez pour ainsi dire meneur de jeu.
On devient meneur de jeu. La possibilité de créer des éléments, la possibilité de choisir quand on se lit un objet quelles sont les lignes de notre quelles sont les attaches, quels sont les liens qu'on va lui transmettre.
Ouais.
C'est des postures réellement de prise de pouvoir forte sur son personnage. C'est comme si on, dans un autre jeu, c'est comme si on pouvait décider, je retire cette compétence, je la transforme comme ça, je la remets. Il y a un côté beaucoup plus Lego.
Ah, ça c'est
qui est, qui, moi je trouve qui est
c'est
très
du
nouveau,
Lego,
pour, très, très novateur et qui est permis par les règles. En tout cas, même si on peut retirer Alex, c'est forcément une capacité dont il faut prévenir les joueurs que leurs personnages peuvent le faire.
C'est intéressant. Vous, cette dimension-là, du coup, Antoine et Audrey, en fait, vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est d'abord décrire, et après, on voit comment le Lego il s'organise.
C'est ça. Après, je trouve ça très bien qu'on ait qu'on n'ait pas que des gens comme nous à la table.
Oui, bien sûr.
Parce que moi, je me repose beaucoup sur Julien et Amir quand j'ai des questions techniques. Ouais. En disant, mais comment je peux faire ça? Ou si je fais ça, quelles sont les conséquences sur mon personnage dans la fiction? Et je sais qu'il n'y a pas que le maître du jeu qui détient ce savoir-là. Donc c'est d'autant plus confortable pour quelqu'un comme moi qui ne retient pas les règles globalement, parce que ça ne l'intéresse pas.
Et puis il y a un côté faire aussi. C'est-à-dire, en fait, quelque part, on sait que le maître de jeu n'est pas tout puissant. Là, on sait qu'il y a des règles très techniques pour dire, bah voilà, il se passe ça, quand ça, etc. Il y a un côté, le maître de jeu est autant soumis aux règles que les autres joueurs, vous voyez ce que je veux dire, alors que...
Moi, c'est une dimension qui m'importe absolument pas, celle-là.
C'est-à-dire
je joue qu'avec des MJ en qui j'ai confiance, enfin, tu vois, en qui je sais qu'ils ont envie de nous faire passer un bon moment, donc cette dimension-là, pour moi, elle est...
D'accord, ok. Non, c'est pas vraiment ce que je veux dire quand je dis. Comment dire? Il joue au même jeu que toi, le meneur de jeu, tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas en train de penser à autre chose que ce à quoi tu penses, sauf que lui, il le pense depuis le point de vue des personnages non-joueurs, mais je sais pas si je suis très clair. Amir.
C'est un peu un autre joueur, quoi.
C'est un autre joueur, voilà, c'est ça. Alors, je dis pas que c'est reposant pour les joueurs. Mais pour le meneur de jeu, Sens Néant, c'est pas mal parce que ça permet enfin de jouer à sens avec les autres quelque part. De pas. Alors, c'est vrai et faux parce que j'ai quand même les clés de l'histoire. Et il y a quand même des intrigues dans Sens Néant. Donc j'ai quand même ça en tête.
Est-ce que c'est parce que c'est un jeu dans le jeu?
Ben, en tout cas, il a été conçu pour ça. Mais il a surtout été conçu pour rapprocher le MJ des joueurs. Je peux pas en dire plus, mais voilà, je pense que c'est l'idée en tout cas.
Rapprocher le MJ des joueurs ou les joueurs du MJ?
Les joueurs du MJ, exact. Tu as raison de me reprendre, effectivement, tu as raison. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre là, à travers dans la larme de Classis? Vous êtes en train d'apprendre à devenir MJ à votre tour, en fait. Vous apprenez à décrire des choses comme le MJ doit le faire, etc. Donc c'est un jeu pédagogique au sens de MIST, vous savez, les mondes pédagogiques qu'on visite et qui nous apprennent au fur et à mesure, tiens, je prends le contrôle de la narration, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'autorité sur ses ombres et compagnie, et compagnie.
Est-ce qu'on avait déjà Antoine. Pas un peu volé la narration sur les deux précédents sens, où on s'en était emparé par moments?
Avec les points de Cellulis.
Même sans ça, j'ai l'impression qu'on a une table qui est quand même très créative,
oui.
qui apporte des choses, qui oui. apporte de la fiction et qui n'hésite pas à dire bah, ça va se passer comme ça.
Indéniablement. Et aussi parce qu'il y a une table de meneurs autour de là. Vous êtes tous meneurs de jeu à vos jeux respectifs, ou créateurs ou auteurs de scénarios.
Il n'y a qu'à voir les discussions qu'on a eues d'ailleurs sur les moments où tu reprenais la main et on ne pouvait plus intervenir.
Ouais,
tu vois, là, quand tu nous faisais des cinématiques.
Des cinématiques.
Merci, c'était le mot que je cherchais. Ouais.
Ouais. Donc c'est ça. Et donc ça pour vous, c'est dur parce que vous avez envie d'être. Donc quelque part, moi je vois Sens Néant comme le moment où enfin vous êtes aussi créatif que moi, si j'ose dire, en tant que meneur. Alors c'est intéressant ce débat sur les règles. Il y a d'autres choses comme ça qui vous posent problème dans le jeu ?
Alors moi, il y a un truc Antoine. Qui me pose problème dans le jeu, mais ça n'a pas l'air de choquer mes camarades qui n'en parlent pas. C'est le fait qu'Azilis soit dans le jeu. C'est-à-dire qu'un personnage de la fiction du dessus, si on peut parler en strat, va se retrouver dans la fiction du dessous qui
c'est
n'a pas grand-chose à voir avec la fiction du dessus. Donc dans quelle mesure ce personnage-là, tel qu'on le voit avec nos golems, dans quelle mesure ce personnage-là ressemble ou non au personnage d'Azilis dans Sens, dans le monde de Sens? Moi, c'est un truc qui me perturbe beaucoup. Quoi.
Beaucoup, ouais.
Et qui fait que je ne suis pas complètement à l'aise. Parce que pour moi, il n'y a pas cette rupture complète entre les deux jeux et qu'il y a ce lien-là entre le jeu précédent et celui-là qui finalement me met plus mal à l'aise qu'autre chose.
Ah, c'est marrant parce que la plupart des tables, c'est l'inverse. C'est-à-dire, en fait, quelque part, tout le contrat social change dans ce sens-là, dans ce sens néant, j'entends, par rapport aux autres, et la plupart du temps, les gens disent « Heureusement, il y a Azilis qui nous rappelle qu'on est quand même dans l'univers de Sens, et donc ça nous fait un lien avec l'autre univers.
» Moi, je trouverais ça libérateur qu'elle y soit pas.
Ouais. Alors, Audrey a l'air d'être d'accord. Amir, je vais te passer la parole après.
Oui, mais d'abord, c'est Azilis, mais sous une autre forme.
Alors, pourquoi l'appeler Azilis?
Ouais. Non, mais parce que moi, je pense que c'est vraiment Azilis. Et Azilis, elle est suspendue au-dessus d'une ville, elle est plongée dans un espèce de
coma,
etc. Et donc, Classis, enfin, si tu veux, je me suis fait ma petite histoire dans ma tête, et en fait, j'ai oublié qu'on ne me l'avait pas raconté qu'elle venait de moi, quoi. Bah, oui. Et du coup, je me suis dit que comme Classis veillait sur elle tendrement, il avait eu à cœur de lui offrir son histoire à elle aussi. Et donc, voilà, elle a son scénario.
Amir ?
Ben, pour moi, Azilis, on avait déjà vu à la fin de Sens Mort qu'on avait eu des visions d'Azilis dans un autre monde. Franchement, il y avait un dragon, je ne me rappelle plus les détails,
mais
on avait déjà vu ça.
Ouais, et puis, Ridger avait spoilé le fait que ce serait un monde médiéval fantastique.
Et dans l'autre monde, on la voit pas, Azilis. C'est presque une statue immobile, suspendue au-dessus des airs.
Une momie.
C'est pas une personne. Enfin, c'est un symbole.
Ouais.
Et là, on la voit en tant que personne. Donc pour moi, elle est vraiment différente déjà. Et c'est un lien pour moi, effectivement. Alors, je dis pas que heureusement ou pas heureusement. Pour moi, c'est juste la suite logique. C'est-à-dire, on est là pour comprendre Azilis, pourquoi on a cette statue.
Comment elle est devenue.
Éventuellement la sauver et combattre Kabuki, machin, etc. Bon, après, c'est
dans la fiction, Ridger, il est très très attaché à Azilis. C'est un peu.
Personnage d'Antoine, hein, on rappelle Ridger.
Voilà. C'est un peu l'opposé de mon personnage. C'est ce qu'il ne veut surtout pas devenir. Et il s'est fait, et à travers lui, moi-même, on s'est fait une opinion de ce que pouvait être Azilis, de comment elle avait pu vivre, etc. Et le fait de l'avoir évolué, ça
casse le mythe.
Ça casse un peu le mythe, ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
Ouais. J'en doute pas. J'en doute pas, j'en doute pas.
Alors pour Mylène, ça le crée.
Voilà, c'est ça, ça dépend.
Ouais, parce que moi, j'avais déjà créé le mythe, en fait.
Ouais. On verra.
Du fait que j'ai créé une statue de.
C'était un scientifique, je peux pas créer sans preuve.
Ah, c'est chouette ce que tu dis, mais... Antoine. Exact, c'est vrai que j'avais oublié cet événement dans Aqua City où tu crées une statue. Tu t'étais imaginé quelque chose et finalement, t'es un peu déçu, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Julien.
Dans la mesure où on joue la chute, enfin on joue une histoire qui se passe chez les Septentriens, qui sont censés être la civilisation qui a amené aux runes, qui ont permis Cosmo et Rebirth, etc. On joue la jeunesse, probablement, d'Azilis, la jeunesse d'une des immortelles, peut-être, qui s'est peut-être réincarnée, voilà, alors ça pose un certain nombre de questions d'ailleurs quand on y pense, parce que vu qu'elle est devenue une rune et pas sens, et que a priori dans la fiction actuelle, un des enjeux c'est qu'elle s'éveille au sentiment ultime.
L'ultime sentiment, ouais.
Ce qui ferait plutôt penser à sens que à une rune, l'incarnation personnelle d'une rune, et qu'elle a fini incarnation personnelle d'une rune, on peut se poser un peu la question de comment ça va se goupiller à la sortie, mais pour l'instant, clairement, on joue la jeunesse. D'une Azilis qui a un lien qui nous reste à définir avec l'Azilis actuelle, et ce lien va peut-être être une des réponses à comment est-ce qu'on vainc le Kabuki ou comment est-ce qu'on réveille Azilis aujourd'hui. Et pour moi, c'est très cohérent en fait qu'elle soit présente là-dedans, puisque on est dans l'idée de revenir aux sources du mal, en tout cas du problème, pour mieux le comprendre. D'ailleurs, c'est déjà une piste qui nous a été donnée quand on est sur l'enquête vers l'assassin. Je ne sais plus qui a exploré un Mantis, à qui on a dit mais ce serait peut-être plutôt que de se poser la question de ce qui s'est passé au moment de l'assassinat, peut-être ce serait pas mal de se poser la question de ce qui s'est passé avant l'assassinat. Voilà. Et je pense que la question de revenir aux sources va être une des thématiques récurrentes de Néon, et à ce titre-là, la présence d'Azilis me paraît complètement normale, puisque c'est elle qui fait le lien conducteur, enfin le fil conducteur.
Alors, beaucoup de tables, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose. Beaucoup de tables ressentent une rupture, en fait, du contrat social dans Sens Néant et se disent non, mais c'est un scandale. On m'avait promis un jeu de space opéra, science-fiction, philo-fiction et compagnie, et je me retrouve dans un univers onirico-fantastico, je sais pas quoi, avec des dragons et des pierres qui n'amassent pas mousse. C'est quoi ce délire? Est-ce que vous avez cette même sensation de rupture ou est-ce que pas du tout? Amir, c'était probablement le joueur qui me faisait le plus peur de ce côté-là, et je trouve qu'au final, j'ai l'impression que dans Sens Néant, t'es celui qui s'y débrouille le mieux. Ce qui est...
Ah, ça me surprend, ça. Ouais. Non, moi, j'ai pas du tout eu de sentiment de trahison.
Franchement, ouais.
Ça avait déjà été plus ou moins amené de façon à la fin de Sens Mort. Antoine l'avait deviné et autres, et tu nous avais laissé quelques indices déjà. Donc,
justement pour éviter ce sentiment de rupture de contrat.
Mais non, de toute façon, je pense pas que je me serais senti trahi. Je suis un multivers fan depuis très longtemps.
D'accord.
Ça me dérange pas ça. J'ai eu du mal à m'intégrer. Alors, je dirais le canon esthétique de Myriad.
Ouais, ouais.
J'avais vraiment du mal à le saisir, à le ressentir et autres. Ça commence à venir. Personnellement, je suis encore loin d'être vraiment totalement à l'aise, mais bon, ça va.
Ouais, okay. J'ai l'impression que tu te débrouilles plutôt bien pour le moment. Tu campes bien ton personnage.
Merci.
Tu
vois.
Et justement, ça me faisait un petit peu peur, parce que j'avais l'impression, en plus, que tu étais très attaché au personnage de Milan, très attaché au canon SF, mais je me suis trompé.
Peut-être eu le sentiment, quand j'ai joué Milan, qui était un scientifique, et sur la fin, qui était un peu paumé, qui se posait beaucoup de questions. J'essayais vraiment de jouer ça, et donc il y a peut-être eu effectivement une. J'ai peut-être donné l'impression de ne pas être vouloir changer, ou etc. Parce que je jouais le côté justement rigide de Milan, okay. Qui peur du changement. C'est peut-être ça, je sais pas.
Peut-être. Les autres autour de la table, Antoine, Julien, Audrey, vous le ressentez aussi comme une trahison ou pas du tout
Alors, moi, pas Antoine. Du tout. Parce que je pense que les enjeux sont finalement les mêmes. C'est-à-dire que le fait de se poser des questions, d'avoir des éléments de des dilemmes moraux pour nos personnages reste. Et en fait, c'est pour moi la vraie thématique de sens, c'est ça finalement, plus que l'esthétique de l'univers dans lequel les personnages évoluent. Et je, si j'avais senti une trahison, ça aurait été là-dessus, ou d'un jeu sur lequel on s'interroge beaucoup et nos personnages se posent des questions sur des dilemmes sur qu'est-ce qui ferait le moins mal ou qu'est-ce qui me ferait le moins mal, se retrouve du jour au lendemain sur un porte-monstre trésor à tracher du gobelin les uns derrière les autres sans se poser aucune question de moralité par rapport à ça, quoi.
D'accord, ok. Très intéressant. Julien, t'avais l'air d'opiner du chef, là.
Alors moi pour moi, il n'y a pas du tout de trahison. D'abord parce que je suis très fan de ce type d'évolution-là. Je suis beaucoup plus intéressé par un meneur de jeu bienveillant et cohérent que par un contrat social trop clairement défini. Donc j'ai aucun problème avec ça. On n'a pas tué mon ancien personnage pour m'en obliger à en jouer un autre. On me permet de garder les deux, donc ça enrichit plutôt. Ça tombe à un moment dans la campagne où mon personnage commence à devenir complexe, a des vrais problèmes mots qui deviennent presque pénibles pour le joueur. Et même pour le personnage, c'est extrêmement libérateur, en fait, à ce moment-là, de se retrouver à pouvoir s'éclater à faire du jeu de rôle et arrêter de penser un peu...
Je n'ai pas briefé Julien, hein, je tiens à le dire avant. pour les meneurs de jeu qui nous écoutent, je n'ai pas briefé Julien.
Voilà. Kaïsan, elle est dans les problématiques de naissance d'un nouvel enfant, de l'élever dans un univers dominé par Miphos Kadraya, de la problématique de sa propre ontologie fluctuante. Pouvoir jouer un personnage qui n'est pas elle, en plus c'est un personnage qui était basé, qui faisait du théâtre. Un de ses axes, c'est qu'elle c'était une scientifique mais qui était passionnée de théâtre et qui jouait et qui était du coup elle peut renouer avec ça. Elle a créé un personnage qui est à l'opposé d'elle. Oui. Elle a été quadrilla de vie, passant sa vie à se poser la question de comment protéger son frère, ses amis, ses machins, en protégeant toujours tout le monde et en étant toujours coincée par plein de contradictions morales par rapport à l'évolution du monde et ça. Et là, elle peut enfin jouer un personnage qui est juste
un
sétentrat de feu qui se préoccupe pas des conséquences, ouais. qui doit rentrer dedans d'abord, et qui réfléchit ensuite. Et je trouve extrêmement, j'y arrive pas toujours, mais des quelques moments où j'arrive à jouer Kerry qui joue Harder, ouais. C'est-à-dire en plus une femme qui, moi je suis un homme qui joue une femme qui joue un homme. Enfin, je trouve que il y a plein de trucs très très rigolos quand j'arrive à balancer des remarques en tant que Kerry à Milan, à Ridger ou Alexa.
Le jeu est fait pour. Hein. Ce qu'il fait, Julien, je tiens à dire que c'est dans les règles,
c'est
dans la base.
C'est Kerry qui le fait,
pardon, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu fais en faisant intervenir Kerry dans l'histoire de Classis, etc., c'est complètement voulu par la base et voulu par les règles. Il joue parfaitement à son
sens. Je trouve ça difficile, mais je trouve ça extrêmement rigolo.
Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que là, il y a quelque chose qu'on n'a pas joué pour le moment et que je tiens à dire pour les meneurs, c'est tous les passages en dehors de la fiction de Sens Néant et qui se déroulent dans l'alarme de Classis. Là, la prochaine scène qu'on va jouer, c'est ça, donc je vous l'annonce. On va jouer dans l'alarme de Classis, dans l'univers où le temps s'est arrêté, dans cette espèce de bulle de réel créée par Classis pour vous faire jouer à Sens Néant avant le retour pour vaincre le Kabuki, l'aiguilleur. Donc, vous allez pouvoir jouer à nouveau vos personnages de sens. Et c'est très important, ça.
Mais ça,
petite boutade.
Amir.
Et alors, la grande question, c'est un jeu de rôle sur table ou un GN?
Mais moi, c'était un des jeux. C'est-à-dire que de temps en temps, je me regardais, moi, fatigué en tant que joueur. Et je me disais, comment Kerry-san évolue par rapport à ça? Moi, j'étais allongé. J'ai dit, Kerry-san, à ce moment-là, utilise ses ombres pouvoirs pour essayer de représenter un peu ce qui se passe. Ou pouvoir représenter ce qui se passe. Ouais. Comment Kerry-san? Et puis, ou alors des remarques méta, mais qui sont à la limite de l'ironie dramatique. C'est-à-dire où je fais remarquer à Ridger que ce soit dans la réalité ou dans la fiction, il faut encore qu'il ait tout cassé, quoi.
Voilà, ça, c'est super intéressant. Alors, il y a deux choses que je retiens de ce que tu es en train de dire, Julien. Le premier, c'est la prise de recul par rapport au personnage. Et la deuxième, c'est le caractère reposant de Sens Néant. C'est-à-dire que vous sortez quand même de Sens Mort. On s'en rend pas bien compte parce que ça fait un an qu'on n'a pas joué là, à la table des quatre. Mais il faut voir que vous sortez de Sens Mort, qui est juste le sens où vous avez tout perdu, quoi. Votre équilibre mental, comme le signalait Milan, vous en avez tous pris plein la gueule.
On était tous à bout. Hein.
Voilà, à part Ridger qui a réussi, je trouve, à s'en sortir d'une façon en disant « Oui, je souffre, mais c'est pour l'art un peu. Enfin, il y a un côté « Je suis un artiste », etc. Donc tout ça passe sur moi, voilà. » Néanmoins, voilà, vous avez tous vraiment beaucoup, beaucoup morflé. Et donc, l'arrivée, l'intervention de Classis, c'est vous dire « Attendez, les gars, là, on va jouer, quoi. On va jouer, juste jouer. » Bah, ça fait du bien. Et ça, je suis content que Julien le ressente parce que c'est aussi un peu le rôle de Classis. Si vous vous souvenez bien des interventions de Classis dans Sens, c'est toujours un peu ça. Au moment où ça devient un peu lourdingue, il arrive et il dégonfle le ballon. Il dit, c'est quoi cet univers de merde là? Vous êtes où là? Vous vous prenez pour qui? Il y a un côté dégonflage de ballon. Et voilà, là, c'est exactement ce que le jeu veut faire. Et donc, ça me fait plaisir que Julien le signale. C'est pour ça que je disais, je ne l'ai pas briefé avant. Parce que c'est vraiment exactement le type de sensation que je veux que les joueurs ressentent. Sens devient lourd, en fait. Dans Sens Mort, ça devient lourdingue, en fait. C'est vraiment trop. C'est un peu too much. Et du coup.
On se souvient de l'usine.
Voilà.
Alexa. Donc,
ça fait du bien. Ça fait du bien de voyager dans un monde un peu plus coloré, avec un peu plus d'espérance, en fait, tout simplement. Où les liens sont beaucoup plus importants.
Tu te fous complètement de nous, tu viens de nous annoncer...
Vas-y, Audrey, parle.
Tu viens de nous annoncer qu'il y avait deux géants d'acide qui fonçaient droit sur nous pour nous anéantir dans quelques saisons.
Mais on s'en fout, c'est dans la fiction.
Et vous le savez... Que vous savez, en tout cas, vous pensez savoir que ça va se réaliser, puisque dans le monde de Sens, Mars, qui est donc l'ancienne Myriade, est effectivement devenue la planète rouge, annoncée par la prophétie dont on a entendu parler. Je ne vais pas y arriver. Bulle, donc le personnage d'Antoine. Donc ça veut dire qu'il y a comme une espèce de catastrophe annoncée. Mais pour autant, c'est quand même un bol d'air pour vos personnages. Dans tous les sens du terme, pour vos golems et pour vos personnages. Donc les golems, on rappelle que ce sont les personnages des bugs. Les bugs étant les personnages des cellulis. Et dans le système de jeu, la feuille de cellulis devient la feuille de bug et la feuille de simulacre, donc qui était celle des bugs pour les cellulis, devient celle des golems. Donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça qui provoque en fait une profondeur supplémentaire en fait au jeu. Et l'immersion... Comment vous la ressentez dans ce jeu-là, Audrey et Antoine, justement, qui avaient peut-être plus de difficultés avec le système de règles et tout ça, pour l'instant?
Ah, ça tourne très très bien. Enfin, moi, en termes d'immersion, j'ai aucun problème.
Vous êtes dedans, quoi, je veux dire, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que parfois, quand on dit les règles me posent problème, ça veut dire que je ne suis pas dedans, tu vois.
Enfin, un système de règles ne m'empêche pas de créer, quoi. Ou alors, si ça m'empêche de créer, bah, c'est que ce n'est pas le bon système de règles. Ouais. Le jeu n'est pas fait pour moi. Mais...
Ou pas adapté à sa promesse. Ça peut arriver aussi. Hein.
Ouais. Après, je sais pas jouer autrement que comme ça.
D'accord, ok.
Donc, et c'est pour ça que j'ai. Même dans les jeux globalement grand public, type Donjons et Dragons, Pathfinder, j'ai toujours des personnages qui sont à la marge. J'ai toujours des bardes ou des personnages qui sont extrêmement créatifs et qui vont glisser sur le système parce qu'ils ne cherchent pas à optimiser, étant donné qu'ils...
Des personnages ne rident rien, finalement.
Des personnages qui créent de la couleur.
Je l'aime bien, mon adjectif. Oui, je comprends, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Des marginaux, effectivement, qui veulent créer...
C'est ça, parce que...
Qui restent des auteurs et des créateurs au sein d'une...
Ouais, parce que je ne trouve pas de plaisir à optimiser le système.
D'accord, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que justement, c'est très cohérent avec ce que tu as dit par rapport à la façon dont tu voyais la mécanique. C'est d'abord la fiction, ensuite le Lego qui va avec ça. Fais ta tambouille MJ, j'ai envie de dire quoi. Je veux pas avoir. Ok. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'Antoine ne prenne la parole. Est-ce que toi, tu te sens perdu dans cet univers? Est-ce que tu te sens en immersion ou pas? Est-ce que ça va?
Bah, je suis pas perdue. C'est toujours les mêmes. Enfin, je trouve pas que. Excuse-moi, je reboucle il y a un quart d'heure, mais je trouve pas du tout qu'il y ait.
Une rupture. Ouais.
Une rupture de contrat social. J'aime bien me prendre la tête. Et c'est comme ça depuis le début. Donc là, ça continue avec un autre type de personnage.
Est-ce que tu as la sensation que dans ce jeu, tu vas apprendre quelque chose sur l'autre sens? Sur l'autre jeu? Dans Sens Néant, tu vas apprendre des choses sur l'autre sens? Est-ce que c'est pas ça qui fait la continuité en fait?
C'est une bonne question. Je pense que Lexa peut apprendre des choses d'ordre plus personnel que peut-être que sur des questions d'univers.
D'accord.
Je pense qu'il y a un apprentissage en fait personnel qu'elle fait à travers ce jeu de rôle parce qu'elle a choisi de jouer un personnage, le golem éclat, qui est très différent d'elle-même. Mmh. Et c'est un vrai choix qu'elle a fait au départ.
D'accord, ouais. Et toi, Julien, je pense que là-dessus, vous êtes en totale opposition. Est-ce que toi, tu as la sensation qu'il va apprendre quelque chose sur les fondements de l'univers de sens
Moi, ouais, complètement.
Ah, voilà, c'est ça.
Complètement. Moi, c'est pour ça que j'y vais. Et, et Kerry a probablement de la distance avec son personnage, en fait. C'est-à-dire qu'elle y va pour ça. Elle a son alter ego. C'est fait pour piocher des infos pour sauver réellement l'univers dans lequel il y a son frère, dans lequel il y a son enfant, dans lequel il y a. C'est pas.
Elle n'est pas là pour s'amuser.
Si, elle est là pour s'amuser, mais elle est là pour apprendre Elle va en profiter pour s'amuser. Mais parce qu'on lui a dit, c'est un jeu, et c'est en jouant que tu apprendras des choses. Alors elle joue pour apprendre des choses. Et si elle a choisi un personnage qui était un personnage très direct, c'est parce qu'elle est là pour obtenir des informations, elle est là pour faire ce qui est nécessaire pour que ça marche. La fin justifie les moyens, qui est un des liens de son personnage, de Harder. C'est ça. C'est-à-dire que. Bon, ça va, on est là pour se poser la question trop longtemps de la sensibilité d'Azilis. Non, quoi. Enfin, on rejoue une tragédie qui a déjà été jouée, donc on rejoue un peu le passé, mais on sait comment ça va finir. La question, c'est de comprendre comment ça va finir et d'obtenir l'information pour agir dans le présent.
Amir.
Le point de vue que tu décris sur Kerry, sur Harder, c'est un peu la façon dont tu jouais Kerry sur la fin, sur Sens Mort, déjà. Qui était, allez, on arrête les bêtises, etc. Ah, on y va, quoi. Il y avait déjà ça. Ce que je voulais dire, c'est que, en ce qui me concerne, donc il y a une différence entre Milan et moi, Amir, sur la question que tu posais, à savoir, est-ce qu'on va apprendre des choses sur Sens Néant ? Pour Milan, en gros, on lui a dit que. Il y croit, alors il joue, il voit. C'est le côté un peu scientifique, ok, je vais observer, je vais analyser, etc. En ce qui me concerne, moi, Amir, j'ai mon idée, j'ai tort ou j'ai raison, qui est qu'on va apprendre à masteriser sens... alors la suite de sens néant, je ne sais plus ce que ce sera.
Sens cosmo.
Sens cosmo, voilà. On va apprendre à masteriser notre réel univers. Voilà,
c'est ça. En fait, que Classis est en train de trahir en fait les règles de l'univers des bugs, et que c'est parce que vous allez avoir joué à un jeu dans lequel ces règles sont similaires que vous allez pouvoir, avec vos bugs, optimiser en fait vos chances.
Qui est sans doute ce que font les immortels, ou peut-être ce que fait Miphos, etc. Avec ses, je sais plus comment ils s'appellent, les contrats des bugs là.
Les quadrillas.
Les quadrillas de Cosmo et autres. Qui sont trop forts pour nous parce qu'ils maîtrisent ces règles-là quand nous ne maîtrisons pas encore. C'est mon idée un petit peu, Amir,
tu touches du doigt à la définition même de la métaphysique. C'est en fait ce que tu es en train de dire, c'est que ce jeu, le jeu de Classis, c'est un jeu pour nous apprendre la métaphysique de sens.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire. Et voilà.
Qui dépend de la métaphysique de Myriade.
Je ne contredirai pas Amir, hein, évidemment. J'entends qu'il sourit. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent particulièrement dans cet univers et que vous voudriez qu'on développe un peu davantage, y compris dans ma manière de maîtriser, tu vois, inversement. C'est un peu le moment où vous me faites mon procès, vous dites allez, la Rome, faut que tu fasses ceci, cela. Moi, j'aime. Faites votre carte postale, votre lettre.
Il y en a marre des règles, on veut du RP.
Vraiment, là, tu trouves que depuis 2 heures, on a fait beaucoup de règles ? Ou alors c'est plutôt ton sentiment global sur la journée ?
C'est moi, je serais pas contre un peu plus de RP, voilà.
D'accord, ok, ouais, ça marche.
T'as demandé, hein ?
Ah non, mais ça m'intéresse énormément. Mais je trouvais que depuis quand même quelques heures, on faisait plus de roleplay, un peu moins de règles, mais non, tu trouves pas ? Ah, ça m'intéresse parce que du coup, tu vas être déçu, parce que là, je peux pas faire plus de roleplay.
Non, c'est pas qu'on fasse de beaucoup de règles, c'est plus... Je sais pas, peut-être que c'est parce que nos actions ne sont pas... Enfin, c'est pas smooth, quoi. Peut-être parce qu'on mène chacun des actions de notre côté. Du coup, ça dilue vachement le RP.
D'accord.
Un peu comme dans un jeu de rôle classique où il y en a un qui se barre à l'ouest, l'autre à l'est, le dernier va fouiller le château, et du coup, bon,
Tu penses RP en discussion entre joueurs ou tu penses RP en introspection ?
Non, pas en enfin, je peux faire du RP avec moi-même, mais vous risquez de pas beaucoup l'entendre, tu vois.
Parce que
non, je parle en RP avec les PNJ ou en RP entre nous. Il y a quasi pas de RP entre nous, à part un petit peu entre Bulle et Éclat, mais c'est tout, quoi.
Ça vient du mode de communication des Sétentriens, tu vois.
Ouais. Bon, et d'accord, ok. Bon.
Mais donc, je sais pas. Est-ce que ça va ? Du coup, là, c'est une vraie question. C'est possible que tu te fasses vraiment chier, en fait. Est-ce que ça va être comme ça ?
Non, c'est pas grave. J'écrirai.
Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'on, pour moi, on joue des...
J'espère que ça ne sera pas le cas.
On joue des joueurs de jeux de rôle débutants. Kerry-san est débutante en jeu de rôle. Ouais. Et donc, elle va jouer un personnage qui est un avatar rapide. Et donc, les échanges... Kerry-san écoute ce qui se passe pour les autres. Donc, elle joue en méta. C'est pas un problème si elle entend quelque chose qui s'est passé dans le rêve de la, dans l'alvéa de l'un ou de l'autre régulièrement, et puis elle voit que les autres font la même chose d'ailleurs, puisque il s'est passé quelque chose dans, dans une
non.
il s'est passé quelque chose dans une exploration de dans une lecture de, d'aura que j'ai faite qui a été réutilisée par tous les autres joueurs alors qu'ils n'y avaient, alors que le personnage n'y avait pas accès par exemple. Donc on est, donc moi en tant que Kerry-san, j'estime que nos personnages communiquent de sorte à ce que les personnages aient le même niveau de communication, même niveau de connaissance que les joueurs.
D'accord. Ouais.
Donc en tout cas, c'est comme ça que pour moi ça fait cohérence et que donc il y a du roleplay.
Je n'ai clairement pas fait ça, moi.
De même que je vous ai dit, à un moment on l'a pas joué, mais je vous ai dit, on a passé quelques semaines ensemble. Clairement, vous savez qu'Harder vous a tous testé. Alors, Ami, on l'avait joué, mais c'est-à-dire qu'il est venu vous voir, il est venu vous dire, venu vous taper dans le dos. Bull a dit, ah ouais, moi, il a dû me balayer d'un coup parce que je ne suis pas du tout proche.
Combatif.
Bah, je découvre.
D'accord. Bah, ouais, c'est, ouais, c'est... Ouais. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu une impression de roleplay, parce qu'il y a peut-être des échanges qui n'ont pas été entendus.
C'est pas du tout le même plaisir de dire, au fait, tu sais quoi, mon personnage, il a fait ça. Et de le jouer vraiment, tu vois, c'est pas le même,
c'est
plaisir.
C'est très intéressant dans l'interaction. Ce que tu dis, je reviendrai vers toi Audrey après, mais Antoine voulait prendre la parole pendant que Julien parlait.
Ouais, c'était plus pour rejoindre Audrey sur l'interaction où j'ai l'impression que c'est une équipe qui manque de cohésion pour l'instant.
Il vous manque une grande problématique de groupe en fait.
C'est ça. Alors autant on a pu se déchirer dans le sens, enfin nos personnages ont pu se déchirer dans le sens et ça a pu aller très loin. Ouais. On le sait, voilà, il y a eu des grosses tensions entre les personnages. Mais malgré tout, ces tensions nourrissaient la cohésion quelque part.
Ouais, je suis d'accord.
Ce qu'aujourd'hui on n'a pas. Je
comprends parfaitement. Je comprends parfaitement.
Et peut-être, alors, là...
Ça va venir, ça va venir. Vous inquiétez pas, ça va venir.
Peut-être que c'est parce que, aussi, dans le sens, j'ai un personnage qui... J'ai Ridger. Ridger crée du lien. Il prend des décisions hâtives.
T'es le commandant. Il est un chef.
Il est commandant, il est chef.
C'est hyper important. Là, il n'y a pas de chef.
Il peut être... Ces décisions... vont être critiqués par les autres, ça va être discuté.
Ça va créer du maelstrom.
Voilà, aujourd'hui, on n'a pas ça, et moi, je ne le joue pas, parce que je n'ai pas un personnage qui est dans cette dynamique-là. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça ne manque pas au groupe aujourd'hui.
Alors, je peux vous dire, ça arrive. Ce que je peux, par contre, donc si c'est ça, là du coup, je comprends un peu mieux le retour d'Audrey et ce qu'elle désire. Ça arrive. Le problème de Sens Néant, et je passe la parole Julien, c'est juste pour compléter ce que vous êtes en train de dire du début de Sens Néant, c'est que c'est un tutoriel et que ça se sent. C'est en fait, il y a un vrai côté. Comme dans un jeu vidéo où tu joues chaque personnage séparément parce qu'en fait, t'apprends à utiliser des mécaniques qui sont propres à ton école ou à ton système ou à tes liens et compagnie. Et du coup, il y a un côté, on joue tous les uns à côté des autres parce qu'on est tous en train d'apprendre un truc. Et quand est-ce qu'on joue ensemble, quoi? Quand est-ce qu'on fait collectivité, en fait? Quand est-ce qu'on fait vraiment union et bloc? Et donc je le déplore, mais c'est un vrai défaut de l'introduction de Sens Néant. Julien?
Alors, je pense que moi, j'ai pas du tout le même ressenti. J'ai une impression de roleplay, mais si en fait en recherchant, j'en trouve pas beaucoup. La première chose, parce que ma scène d'introduction, j'ai fait lecture sur lecture sur lecture sur lecture, et donc j'ai rencontré beaucoup de gens quand j'ai discuté avec Pyros, avec le phare et avec Pyros, ouais. Que j'ai retrouvé Pulsar avec qui on a aussi discuté. Régulièrement, je me suis retrouvé avec un PNJ qui avait vraiment des choses à me dire, ou en jouant la lecture, en fait, je forçais le roleplay. Ben ouais. En jouant lecture, j'ai consommé jusqu'à 7 points d'affilée sur une lecture. Ouais, forcément, ça m'a créé des rencontres, ça m'a créé une impression de force. Et au niveau méta intermédiaire, Kerry-san attend que Lexa se plaigne qu'il n'y ait pas assez d'interaction. Parce que c'est quelque chose sur lequel Kerry-san est en surveillance de Lexa depuis un moment, parce qu'on sait que Lexa s'est barrée en vrille et qu'elle a rompu les ponts avec le reste du groupe. Donc.
Sauf que Lexa est celle qui a eu, qui a apprivoisé le renard et qui a appris la porte. Enfin, c'est par elle que vient l'importance des liens.
Oui, mais le lien, il a été en dehors du groupe.
Alors. Et autre chose pour aller dans le sens d'Audrey, juste, c'est que pourquoi est-ce qu'Audrey n'a pas pu non plus trop jouer Lexa, c'est que je n'ai pas trop fait intervenir Classis non plus et demandé leur avis à ces personnages. Parce que pour l'instant, j'estime qu'on est d'abord dans l'apprentissage de Audrey vis-à-vis de son golem. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans cette phase où c'est le joueur qui doit apprendre à jouer son golem.
Le joueur de premier niveau, tu veux dire.
C'est ça. Quand vous serez à l'aise avec l'univers de Sens Néant, on pourra commencer à jouer dans le jeu, si j'ose dire, et à parler. Et là, on va le faire. On va commencer. Hein, dans le début du prochain scénar, on va commencer. Mais il y a quand même toute une phase d'apprentissage. C'est lourdingue.
Sens Néant, c'est rigolo.
Oui, mais en fait, ça dépend.
C'est pas lourdingue du tout.
Ça dépend. Mais ça dépend de vos.
Ça dépend pour qui.
Ça dépend de votre affinité à. Est-ce que t'aimes bien les Lego, Amir?
Pas particulièrement.
Pas particulièrement. Les jeux de construction, en général, t'aimes pas ça? Ouais.
Mais j'aime bien les tutoriels de jeux vidéo.
Ok. Et toi, Julien, t'es très Lego, je sais pas.
Moi, j'adore les Lego.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, franchement, c'est un jeu pour les fans de Lego, en fait. T'as des couleurs de briques, t'as des briques, tu composes tes personnages. Enfin, voilà, c'est... D'ailleurs, il me semble que, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais dans les bâtiments inversés, quand vous voyez l'enfance de Classis, vous voyez qu'il est dans le laboratoire, il est en train de jouer au Lego. Je sais pas si ça vous a marqué, cette scène, mais... Voilà, ça t'a pas marqué. Ouais.
Je me souviens qu'il jouait avec des jeux de construction.
Voilà, c'est ça. Donc c'est effectivement c'est un hommage à ça. Maintenant, je comprends vos réserves aussi, votre désir de jeu collectif. D'accord, très bien. Dont acte.
Alors j'ai une question.
Ouais.
Alors, c'est une question qui est peut-être hors podcast, mais est-ce que c'est quelque chose que c'est une question que je pose au groupe. Est-ce que c'est quelque chose que les persos au niveau Lexa, Ridger, Milan ont eu comme échange, et donc est-ce que après ce podcast, parce que est-ce que ce podcast fait partie de la fiction de Ridger, est-ce que c'est ce qu'on s'est dit là, est-ce que ça peut, on peut estimer que ça s'est dit entre joueurs, ou est-ce que vous préférez qu'on reprenne aussi à ce niveau-là un règlement de compte entre joueurs, genre je comprends pas comment tu joues ton perso Alexa,
je préférerais qu'on le reprenne.
Alors là, juste pour info, la règle du jeu dit qu'il faut faire deux types de briefing, un premier avec Classis, un autre avec le meneur normal, donc il y a bien deux types de briefing à faire. Donc voilà. Donc est-ce que ce podcast fait partie de l'un ou de l'autre ? On en discutera après ce podcast, mais voilà. Pour moi, c'était plus un débriefing de joueur à meneur que de Classis à personnage, tu vois.
Bon, clairement. Lexa, c'est pas moi, donc.
Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Donc du coup, là-dessus, on est OK. L'histoire, la fiction, pour le moment, est-ce que vous voyez où ça va ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce qu'il y a des choses sur ce que vous voudriez creuser ? Ou non, ça...
Bah.
Amir.
Encore un petit peu trop large pour moi, il y a beaucoup trop de possibilités encore pour que je sache vraiment dans quelle direction je veux aller. Donc pour l'instant j'attends un petit peu de voir, je suis un peu passif.
Julien. Bah, y a un peu cette dimension dramatique, enfin tragédique de l'amour impossible d'Azilis et de Savane, qui est un peu large et où on sent que ça va mal se finir et c'est un peu dommage. Mais on va dire que pour Kerry-san, c'est qu'un jeu.
D'accord, ouais. Toi, t'es toujours dans le côté méta avec ton personnage de fiction de sens, en fait.
C'est une des raisons, enfin, c'est une des manières dont je construis le personnage de Néant.
Est-ce que ça veut dire que tu joues un archétype ?
Plus que... Kerry-san joue un archétype.
C'est-à-dire que t'as un personnage... dans la fiction de Sens Néant, qui est plus archétypal que les personnages que tu joues d'habitude.
Oui.
Et d'ailleurs, ça se sent.
Que... À fond.
En même temps, les éléments te poussent naturellement à jouer des caricatures un peu excessives. Tu vois.
Mais par exemple, Kerry-san a vu que Milan essayait de jouer sur les règles pour essayer de faire atteindre son personnage l'ultime sentiment. Elle trouve ça malin.
C'est vrai qu'il
et elle se dit, c'est bien qu'il tente ce coup-là, parce que moi, j'ai le temps de pouvoir tenter autre chose, qui est plutôt de maxer une carac, et donc de voir si...
C'était l'autre option.
Voilà, et du coup, je pense qu'on retrouve un peu la combinaison entre Kerry-san et Milan, qui tentent à eux deux tous les TP possibles au niveau scientifique.
Est-ce que tu pourrais préciser, Amir, de quelle expérience il s'agit ? Je suis sûr que ça va intéresser les meneurs qui nous écoutent.
Le problème, c'est que je ne me rappelle plus comment m'est venue l'idée.
Ouais.
Mais en gros, j'ai eu l'idée à un moment de pour atteindre le sentiment ultime. Enfin, le sentiment ultime était en gros la réunification des six éléments.
Ouais.
Comme dans lorsque tu décrivais les adjectifs qui caractérisaient chaque élément, il y avait l'amour qui était dans tous.
Ouais.
Je me suis dit que l'amour porté à tous les six éléments serait peut-être le sentiment ultime. Donc je développe. Là, alors, moi, j'ai choisi la recherche. Je suis attaché à la recherche du sentiment ultime,
voilà,
que je développe dans les six éléments, donc fois six.
C'est ça. C'est-à-dire, en fait, tu as un élément, je suis attaché à la recherche de l'ultime sentiment, eau, je suis attaché à la recherche. Voilà. Tu as noté à chaque fois le même lien.
Terre, lumière, ombre, feu,
voilà. Ça, lumière. Donc, voilà, ça, je trouve ça très intéressant.
Alors, on va voir ce que ça va donner.
On va voir ce que ça va donner, exactement.
Quand j'atteindrai 10 dans tout ça.
Antoine, Audrey, je vous voyais rire au fond de le fond de la classe, là. Je trouve que la table est vraiment séparée en deux ce soir et aujourd'hui, d'une manière générale, qu'il y a vous deux d'un côté de la table qui ont l'air de trouver ça, je sais pas, un peu ennuyeux, peut-être, sans ce néant, je sais pas pour le moment. Et deux persos qui ont l'air de s'éclater comme des fous, Amir et Julien. C'est très bizarre.
Ben en fait, tu m'interromps, Antoine, si je me trompe, mais nous, on est super contents de jouer avec Julien et Amir parce qu'ils font tous les trucs chiants qu'on n'a pas envie de faire.
Ouais.
Donc, on prend grave notre pied.
Les recherches de Maximaxage.
Voilà, tout ça. C'est tellement pas notre truc. C'est super bien qu'ils soient là et que ça les éclate surtout. Tu vois. Ouais. Ça tombe vachement bien.
D'accord.
Alors que nous, on Antoine. Pose plus les points en fonction de la fiction qu'on veut développer, quoi. Ouais, et pas vrai. En fonction du but à atteindre.
Oui, oui, je comprends.
Comme on l'a dit plus tôt, c'est complémentaire.
Non, non, ah non, mais il n'y a pas d'opposition là-dessus, quoi.
Et pourtant, vous avez quand même la sensation de jouer au même jeu et de ne pas vous emmerder quand eux font des trucs. Mm. Ah, ça me semble tendu comme.
Mais ce que Lexa vient, elle, chercher dans. Enfin, ce qu'elle tente d'explorer dans le jeu, excusez-moi, je rebondis sur le truc d'il y a 10 minutes, mais parce que
ouais, mais je t'en prie,
ça
hein.
prend du temps, en fait.
Bah oui.
C'est ce qu'elle interroge, c'est le statut de la vérité, en fait.
Oui.
Elle a des décisions à prendre. Elle est plutôt tête brûlée. Donc elle a choisi de jouer un personnage qui a les moyens de s'interroger vraiment sur ces questions-là, entre justement la lumière et l'ombre. Et ça lui fait revoir sans doute un peu ses positions à elle. Elle explore quelque chose de nouveau qui, elle espère, profitera au groupe aussi. Et du coup, elle fait ça dans un monde où il n'y a pas vraiment de vérité, en fait. Les vérités ne sont que des vérités particulières. Et ça l'interroge beaucoup.
Mais est-ce que c'est pas vrai de tous les mondes, ça ?
Est-ce que c'est pas vrai de tous les mondes ? Et Julien, monde du temps, mais qu'est-ce que tu veux dire, Julien, là ?
C'est exactement comme les personnages qui sont définis par des liens. On est quoi si on n'est pas les liens qui nous composent, toi ?
Julien ? Pourquoi est-ce que ça t'amuse, tes réflexions ?
La question de la vérité est déjà une question sur laquelle Kairisan est passé dans le monde, de Kairisan.
Dans l'ombre monde.
Dans l'ombre
monde.
Qui n'a
jamais si bien porté son nom.
Et c'est aussi une question que je me suis déjà posée sur laquelle, en fait, il y a des dans chaque monde parallèle, il y a une nouvelle instanciation d'un point de vue sur la vérité qui est
Oui, d'accord. Ouais. Tu vois en fait des liens.
Pour moi, il n'y a pas de vérité. Avec un grand V, il y a des vérités particulières.
Amir.
Même dans le monde réel ou des joueurs, je veux dire, il y a beaucoup de philosophes qui se posent cette question-là, qui donnent leur réponse et on peut se poser la question.
Moi, je me suis posé la question et j'ai répondu qu'il n'y avait pas de vérité avec un grand V.
Et pourtant, tu es un absolutiste alors que je suis un relativiste. Mais bon.
Antoine. Antoine, par rapport à ces questions.
Enfin, moi, je suis sûrement beaucoup plus bête que la moyenne à cette table, mais quand je prends un objet, que je le lève et que je le lâche, il tombe. Il y a la gravité, voilà. Pour moi, c'est une vérité absolue avec un grand V. Je ne remets pas le truc en cause.
Dans l'espace.
Il y a des règles physiques qui s'appliquent à tous les êtres humains en même temps sur la Terre qui font que.
Donc, dans un référentiel précis ?
Je théorise pas, j'émets des éléments pratiques. Et donc, c'est pour moi, ces éléments pratiques sur lesquels on ne remet pas en cause, c'est tout ça que moi je vais appeler la vérité.
Alors, moi j'appelle ça la réalité, j'appelle ça des faits. La vérité, c'est l'idée qu'il y a une vérité immanente qui précède ces faits. Et c'est là-dessus sur lequel je ne suis pas d'accord. Et je pense que les vérités dont je parle, moi, sont des vérités subjectives. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas forcément partagées, mais ça veut dire qu'elles sont relatives.
Mmh. Voilà, c'est pour ça que Sens est un jeu de rôle de philo-fiction, en fait. Parce que théoriquement, en fait, il doit amener les gens... Là, vous avez vu, j'ai posé aucune question pour que vous en arriviez à ces conversations-là. Alors, on peut dire, oui, Antoine, Julien, Amir sont d'ores et déjà... Et Audrey, bien sûr, parce que c'est toi indirectement qui l'a amené, Audrey, sont déjà intéressés par ces questions. Et donc, c'est vrai que... Voilà, mais n'empêche que, voilà, après une partie de Sens Néant, vous discutez de quoi ? Vous discutez du statut de la vérité, vous discutez de la métaphysique avec les réflexions d'Amir, vous discutez des règles et de la fiction, de leur intrication, un peu comme qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est la physique ou est-ce que c'est ce qu'on crée avec ? Ça m'amuse beaucoup de voir un petit truc, c'est vraiment une petite réflexion, mais de voir que Kerry, en fait, et Julien, d'une manière générale, explorent la dimension vraiment métaphysique de Sens, puisqu'elle est déjà entre deux mondes possibles, que sont l'ombre monde et le monde réel, dans le personnage de Kerry, et que du coup, dans Sens Néant, elle est dans les règles et dans aussi en fait, l'exploration d'une nouvelle métaphysique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce de cohérence, et que toi, Ridger, de ton côté, à travers le personnage d'Antoine, tu dis « bah ouais, moi je joue toujours un peu le même personnage, mais en fait, parce que dans le fond, ton personnage de jeu de rôle, c'est toi-même. Tu
bien sûr.
C'est une projection de ton simulacre. Bien le sûr. Mot simulacre n'a jamais aussi bien... Et c'est ce que veut Sens. C'est vraiment le jeu qui est fait pour ça, tu vois.
Et derrière, ce que Ridger cherche dans le jeu, c'est avant tout de tirer de l'expérience pour lui-même en se confrontant à des situations et en se disant, ce sentiment-là, j'ai le droit de l'exprimer parce que dans la fiction, j'ai eu mon personnage qui a exprimé ce sentiment-là et il n'a pas été ridiculisé par les autres. Donc moi, en tant que personnage, j'ai le droit... comme Antoine le ferait en GN ou en jeu de rôle, en expérimentant des situations, et se disent, est-ce que là, je me mets dans ce cercle sécurisé qu'est le jeu de rôle, est-ce que je me mets en danger, est-ce que je me sens, moi, en danger, en tant que joueur, dans ce genre de situation, et comme on est dans un jeu de rôle, et comme on est dans une fiction, est-ce que je peux aller plus loin, et quand je vais plus loin, qu'est-ce que, moi, je ressens en tant que joueur, quoi.
Et en plus, t'as aussi joué un personnage qui est un peu à l'opposé du tien. C'est-à-dire un personnage qui était plutôt directif, violent, etc. Et là, tu joues un personnage OER.
Oui.
Donc beaucoup plus dans la conciliation. Et on voit bien, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai lu, après tu m'arrêtes si je me trompe, mais comme ça que Kerry-san l'a lu, on voit bien comment Ridger essaye encore de faire une œuvre.
Mais complètement,
notamment avec tes rapports avec les bateaux complètement étranges et où on se demande vraiment, où Kerry-san se demande vraiment à quoi ça sert, quoi. À part à faire une poésie de plus.
Mais bien sûr, parce que je ne sais pas jouer. Moi, Antoine, je ne sais pas jouer autrement que comme ça non plus.
En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en explorant différents mondes possibles à travers différents personnages, mais ça, c'est un peu l'expérience du jeu de rôle en règle générale.
Et puis un personnage en opposition, c'est-à-dire qu'il joue quasiment les runes inverses.
C'est vrai. Qu'est-ce qu'on découvre au final ? C'est comme en métaphysique. Pour avoir une idée de la métaphysique d'un univers, il faut imaginer toutes les variables. Et quand tu as toutes les variables, tu vois les invariants, et les invariants, en gros, forment la structure métaphysique de la chose, de l'objet que tu du monde, en fait, que tu es en train d'analyser. C'est-à-dire qu'il faut voir tous les mondes possibles du monde, il faudrait voir tous les mondes possibles de ce monde-là pour voir les structures invariantes et en déterminer la métaphysique. Et ce que tu dis, c'est à travers tous les mondes possibles, en jouant un personnage différent, en fait, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque qu'il y a des choses que je ne change pas, qui ne changent pas. Donc, en fait, tu es en train de découvrir... À travers la métaphysique de Sens, t'es en train de découvrir ce qui fait tes propres structures en tant qu'individu, tu vois, Antoine. Et là, je parle vraiment Antoine. Je parle
c'est pour ça que je fais du jeu de rôle.
C'est pour ça qu'on fait tous du jeu de rôle.
Et c'est pour ça que je fais du GN.
Mais la différence de Sens par rapport à ces autres jeux de rôle, c'est que Sens ne parle que de ça. C'est le propos de Sens que de te montrer ça. Alors que le jeu de rôle en tant que média, on l'a tous senti, si tu veux, que oui, le meneur a quelque chose de Dieu. Oui, il y a quelque chose de métaphysique dans le jeu de rôle. On l'a tous senti. Sauf que là, c'est le propos du jeu, tu vois. Et c'est ça qui ne change pas et qui fait qu'il y a cette continuité dont vous parliez tout à l'heure par rapport à Sens Néant et à Sens. C'est ça la différence, en fait, par rapport. C'est que ça. Oui, le média jeu de rôle est idéal pour découvrir tout ça. Mais là, on a affaire à un jeu Sens qui parle justement de cette dimension-là du jeu de rôle. C'est ça différent. Audrey, tu voulais prendre la parole et puis t'as arrêté. C'est passé à autre chose, en fait. C'est ça que tu veux me dire ? Ok, très bien. Est-ce que, juste un dernier point, et après on arrête et on continue notre partie. Est-ce que vous pourriez, les uns et les autres, me raconter la fiction que vous avez vécue aujourd'hui ? Si vous pouvez la raconter.
Oui.
Alors Julien, vas-y, je t'en prie. Ça m'intéresse beaucoup de voir, parce qu'on parlait de Maelstrom.
Alors, la fiction, c'est que nos personnages, Kerry-san, Milan, Ridger et Lexa ont été emmenés par Classis dans une réalité parallèle étrange où il arrive à contrôler le temps pour jouer un jeu qui nous permettra d'en apprendre plus et d'obtenir des nouveaux moyens de lutter contre Miphos et ses sbires.
L'aiguilleur. Vous n'avez pas promis Monts et Merveilles, on vous a
ouais,
dit l'aiguilleur.
Mais comme, c'est censé, mais, ouais. comme pour Kerry, c'est quand même un sbire de Miphos, ça marchera.
Très bien.
Et peut-être d'en apprendre un peu plus sur Azilis, puisqu'elle semble être présente dans les deux mondes. Du coup, on sait qu'il est quand même assez croque d'elle. Ensuite, on a été... alors, est-ce que je vais le faire pour mon personnage, peut-être ? Après avoir dressé l'historique précédent de Harder, il a été... où il a été trahi, où c'est un peu pris la tête dans différentes batailles. Et finalement, on lui a proposé un truc simple, qui était de devenir golem d'Azilis, donc de défendre...
Azilis, qui est la fille de cette entra.
La fille de cette entra, la fille du prophète, celle dont on attend qu'elle...
atteigne l'ultime sentiment et remplace son père à la tête.
Qu'elle devienne la prochaine prophétresse, ouais. Et qu'il faut protéger éventuellement de l'assassin et de toute autre source de menace ou de trouble.
Voilà, différents complots.
Donc ça, c'était simple. Donc
chacun d'entre vous joue l'un de ses protecteurs, pour faire ça.
On a été okay. convoqué.
Ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient après, en fait.
Donc on a été convoqué, on arrive, on fait rapidement connaissance. Ensuite, on l'accompagne dans son quotidien. Elle a une première enquête qu'elle nous confie, où il y a des parents qui se plaignent que leurs enfants font des cauchemars liés à elle, qui les empêche de récupérer et qui donc les amène au bord de la mort, enfin en tout cas
de l'épuisement.
Ouais. L'amène à l'épuisement et donc à bord de la destruction.
Brisée.
Brisure.
La voilà, brisure. Ouais.
La brisure. On y va, on enquête chacun de notre manière. Il y a Milan qui décide que son personnage, Mont Ardent,
comment il s'est rattrapé aux branches
va réparer la maison qui prend l'eau et qui font que les enfants, en plus, ont les pieds dans la flotte. Il y a Lexa, si je me souviens bien, qui va explorer les ombres.
Oui, mais elle va surveiller. En fait, Lexa a un gros doute sur le fait que ce soit pas Azilis elle-même qui, la nuit, en fait, vienne hanter ces gens. Et donc, elle va décider d'aller garder sa chambre d'ombre. La chambre d'ombre d'Azilis, de confronter Azilis.
Je compléterai tout à l'heure.
Ouais, d'accord, okay, ça marche.
Okay, bon, je vais laisser les autres joueurs
raconter leur point de vue.
Raconter sur le point de vue des personnages de leurs personnages. Moi, je fais une lecture pour découvrir que, en réalité, elle cherche, enfin, le fantôme d'Azilis cherche à obtenir des enfants. La position de son amant amoureux Savane, et que c'est pour ça qu'elle les empêche de dormir. Donc je propose à ce moment-là que leur souvenir soit mis dans un objet, de sorte à ce qu'ils ne soient plus dépositaires de ce souvenir-là et de ce secret-là qui les empêche de dormir. Et après, c'est les autres personnages qui vont gérer le reste. Très bien. Ensuite, après cela, quelques semaines, on voit le retour, une fois qu'on s'explique avec Azilis de ce problème lié à Savane, débarque Savane. Moi, mon personnage avait décidé, enfin, Kerry avait décidé qu'une solution simple pour sortir de la tragédie grecque qu'elle a déjà trop jouée, c'était tout simplement que Azilis tombe amoureuse de Harder, donc de son personnage. Donc, pendant que les autres se bagarraient pour savoir est-ce que
c'était... Mais le cœur d'Azilis est déjà pris.
Mais c'est pas grave, ça valait le coup de tenter quand même. Alors, au moment où il lui propose globalement de sortir avec elle, débarque Savane. Donc, il commence par attaquer Savane parce que c'est comme ça qu'il résout ses problèmes. Il perd. Bon.
Ouais.
C'est pas grave. C'est pas une raison pour pas attaquer. Et puis, sur ces entrefaits, assez rapidement arrive une maîtresse de lumière que connaît.
La maîtresse de. D'Ecla, le personnage de Bray.
Ouais, qui s'appelle Lucie, je crois, qui est un peu étrange et qui dit que pour faire face à deux géants météorites qui sont en train de foncer sur Mogroche, il faudrait qu'on aille mener une enquête à
Miroir.
Une ville qui s'appelle Miroir. Et on part vers cette ville et on rencontre des rochers récalcitrants que
quelques monts ardents domptes et poussent sur le bord du chemin. Voilà pour aller simple.
Ouais, c'est très bien. Antoine, de ton point de vue ?
Alors, de mon point de vue, ça va être un petit peu différent et beaucoup plus court. C'est-à-dire que Bull s'est posé des questions sur l'amour et sur pourquoi l'amour il estime que c'est la solution à un certain nombre de problèmes et la source d'innombrables problèmes. Et tout le cheminement du personnage et toute la fiction du personnage a été construit sur ces questions-là, de savoir qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le lien d'amour et pourquoi le lien d'amour génère-t-il des tensions et des problèmes, et ne faudrait-il pas supprimer le lien d'amour plutôt que de conserver pour assainir la situation, finalement détruire l'amour n'est-il pas la solution. Ça a été ma fiction à moi.
Non, mais complètement. Je partage cet avis. Hein. Et là, on a vraiment affaire à une partie typique de Sens Néant, dans laquelle, en fait, chacun analyse des éléments d'enquête ou tu vois un truc. On va dire, Julien, il l'a analysé vraiment d'un. Il y a des problèmes, voilà les solutions que je propose. Et puis autour, en fait, il y a les gens qui vont chercher à analyser ça de façon, on va dire, plus poétique ou symbolique. Qui vont en fait découvrir des choses profondes en fait, à travers des événements qui semblent anodins. Une porte s'ouvre, quelqu'un entre dans la pièce. Pour quelqu'un, ce sera quelque chose de très matériel. Quelqu'un entre dans la pièce et pour l'autre, ce sera le symbole qu'une virginité vient d'être brisée, etc. Et ça, c'est vraiment un des objectifs aussi de Sens Néant, c'est que chacun en fait, voit justement le contenu fictionnel d'une façon symboliquement très différente. Audrey, toi, de ton point de vue ? Toi, c'était encore la connaissance et le doute qui...
Alors, ouais, moi, j'ai exploré la question de la symbolique de l'acide, en fait. Donc, j'ai été confrontée assez tôt parce que mon personnage est allé explorer le temple des larmes et en particulier voulait en apprendre plus sur la mort de cet Tantra.
Ah, c'est l'endroit où a été tué cet Tantra, voilà, par
et
l'assassin.
Donc, tout à fait. Et donc, elle s'est souillée avec l'acide pour pouvoir avoir des informations. Et elle a du coup, on va dire, rencontré entre guillemets ces tantras à cette occasion.
Le souvenir de ces tantras.
Voilà, le souvenir de ces tantras, ils ont pu en parler un peu. Elle a créé une chimère aussi, ça c'était plutôt rigolo. Et donc la question autour de l'acide, hein, c'est aussi très lié à la question de l'amour, parce qu'elle espérait que l'amour soit une réponse à l'acide, sauf qu'elle s'aperçoit avec Azilis et le cas du coup des trois enfants que son mantis
ça fonctionne très bien pour le mantis aussi, hein.
Ouais, va visiter, en fait elle essaie de elle les torture toutes les nuits pour leur arracher la position de son amant et elle sait, donc elle sa solution à elle, c'est quand elle voit ça, elle va confronter Azilis. Elle lui dit, mais enfin, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire à ton peuple pour l'amour d'un seul ? Ça ne devrait pas être ça, l'amour. Et donc, est-ce que l'amour est toujours teinté d'acide ? Est-ce que dans Myriade, quand on aime une seule personne...
Est-ce que tu trouves qu'elle a l'air de se couvrir d'acide pour Savane ?
Oui.
Oui.
D'accord, très bien.
En fait, se couvrir, je ne sais pas, mais oui. Oui, oui, ils se mentent sur ce qu'ils espèrent, sur ce qu'ils peuvent faire, en fait. Mmh. Elle dit non, non, mais je vais tenir ma position de symbole, de princesse des sept entras. J'ai un rôle à jouer, je dois chercher le sentiment
ultime,
etc. Et en fait, le soir, elle fait comme une gamine, elle va courir retrouver son amant dans les jardins, quoi. Mmh. Donc, et lui, il lui dit non, non, mais je te laisse, je serai ton protecteur de loin, il ne faut plus qu'on se voit, et bam, enfin, c'est du Molière, quoi. Mmh. Et donc voilà, donc elle s'interroge beaucoup sur le problème de l'acide et sur les questions d'équilibre entre l'acide et le sentiment ultime. Elle pense que l'acide est le contrepoint du sentiment ultime et que donc il est apparu à peu près au moment où cet antra a pu accéder à ce niveau supérieur. Et bon, voilà. D'accord, donc elle en est un peu là de ses réflexions.
Donc ça, ce sont... Ouais.
Et je termine, excusez-moi, je suis un petit peu longue. Et non, du coup, Éclat s'est vachement interrogée aussi sur, en tant que golem de lumière et d'ombre, elle voue une voix, une foi religieuse, une passion religieuse pour Azilis. Mais en fait, elle se demande si c'est pour le personnage, enfin la personne qui est Azilis, ou si c'est pour le symbole qu'elle représente.
Alors ça, juste parenthèse de MJ, j'ai trouvé ça génial. Le moment où les personnages se regardent, disent « Mais en fait, qui est-ce qu'on doit défendre ?» Parce qu'on nous dit « Oui, on est des golems d'Azilis, ok, c'est écrit en gras sur notre feuille, c'est écrit en encre indélébile en plus, c'est-à-dire que c'est le seul lien, enfin l'un des seuls liens, les liens essentiels, c'est l'un des seuls liens qui est écrit en fait en lettres d'imprimerie et compagnie, et donc que vous pouvez pas gommer et retirer de votre fiche de personnage. C'est écrit « Ouais, je suis golem d'Azilis et je suis fier de l'être. » Soit. Mais qui est cette Azilis que je dois garder? Est-ce que le mot Azilis désigne le symbole qu'elle représente pour la population myriadienne et pour les Septentriens? Ou est-ce que ce mot désigne la princesse au sens le plus, on va dire, le plus humain, c'est un abus de langage, le plus Septentrien, le plus familier du terme, cette Azilis-là qui est amoureuse de son
Septentrien. Le plus incarné, peut-être.
Voilà, le plus incarné, c'est ça. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça... c'est vraiment la problématique. Ça, s'il y a une problématique centrale au cœur du premier scénario, je pense, de sens néant, c'est celle-là qui est vraiment donc c'est cool que vous l'ayez soulevé, entre autres.
Il y a ça, et il y a la question du coup des origines d'Azilis.
Oui, tout à fait.
Parce que si on s'attache au symbole, l'origine, les parents d'Azilis ont une grande importance. On est au courant pour ses tantras, mais on n'est pas au courant de d'avec qui il l'a créé.
Et on sait que le rituel de l'amour exige la présence de deux Septentriens.
Tout à fait. Voilà. Donc on se demande si c'est pas l'assassin en fait.
Tout simplement.
Tout simple.
Et si c'était tout simplement ça, Amir, donc l'enquête a commencé en fait. Vous enquêtez d'ores et déjà sur le passé pour essayer de trouver, d'identifier l'assassin.
Ben moi, le résumé de la fiction, ça va être rapide vu qu'ils ont à peu près tout dit.
Non mais.
C'est l'avantage d'arriver en dernier.
Ah, moi, j'ai un autre point de vue sur ta fiction.
De mon point de vue à moi. Donc effectivement, on a eu une mission d'aller explorer, enquêter sur ces enfants qui avaient un cauchemar. Donc au niveau des faits, tout a été dit par Julien.
Ouais.
Au niveau de mon personnage,
les faits.
Comment ?
C'est marrant, tu utilises le mot les faits. Au niveau des faits, tout a été.
Au niveau factuel, c'est-à-dire des actions, entreprises, etc. Bien sûr, bien sûr. Ça a été dit pour la très grande majorité. Donc, de mon point de vue, je n'ai pas tellement de choses à ajouter.
Je peux te suggérer quelque chose.
Vas-y, n'hésite pas.
De mon point de vue, hein, tel que je t'ai senti, j'ai senti en fait que tous les autres étaient dans des questionnements qui étaient soit de l'ordre de l'enquête, soit de l'ordre de la métaphysique de l'univers, etc., etc. Soit de l'ordre des questionnements autour des sentiments et tout ça. Alors que ton personnage a été beaucoup plus pragmatique.
Oui.
Je suis un gardien, je m'attache à des gens.
Oui.
Et voilà, Azilis, je l'aime telle qu'elle est. Alors, je m'interroge évidemment sur le bien de ce qu'elle fait, est-ce qu'elle sait bien ou pas. Mais et ça, j'ai trouvé qu'en termes de roleplay, pour un Septentrien de terre, tu as été en fait le plus pragmatique de la table, le plus terre à terre de la table et le plus. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, à mon sens, tu vois, en termes de roleplay, de ce qui est un Septentrien de terre et tout ça, tu campes le personnage à fond. C'est-à-dire, t'es dans. C'est très pragmatique. D'ailleurs, tu vois, le fait que tu emploies le mot « fait » pour parler de ce scénario, je suis sûr qu'Antoine n'aurait jamais pu utiliser un tel mot pour parler de son scénar. Impossible.
Impossible.
Parce que lui, il est complètement dans la vision sentimentale et symbolique de la scène et des scènes, alors que toi, justement, en bon pragmatique et Septentrien de terre, tu vois, t'es campé, en fait, sur la terre ferme.
C'est comme ça que j'imagine mon personnage, effectivement.
Ouais. Et donc, moi, j'ai trouvé que pour ça, bah ouais.
C'est pour ça que je parle comme ça, d'ailleurs.
Le gardien appuyé. D'ailleurs, en fait, c'est toi qui t'occupes des choses les plus pragmatiques.
Oui.
Il y a des pierres qui bloquent le passage, c'est toi qui le fais. Il y a un arbre à abattre, ou il y a un mec à poursuivre, ou il y a...
C'est la terre.
Voilà, c'est ça. Vraiment exactement. Donc ça, j'ai trouvé qu'il y avait... On voit déjà, en fait, le début d'un espèce d'équilibre, en fait, entre différents points de vue qui commencent à émerger. Et le maelstrom tant attendu par Audrey va peut-être survenir au moment où une grande problématique va devoir vous engager sur une décision à prendre et où chacun amènera son point de vue en disant non, du point de vue sentimental, c'est ça qu'il faut faire. Puis l'un dira oui, mais pour l'enquête sur cette entrée, sur cette entraille, sur la... il faudrait peut-être pas détruire ce truc-là. Et l'autre qui dira non, mais pragmatiquement, on doit faire ceci, cela, etc.
Et là, on va voir. Ça donnera lieu aussi à une mise en abîme parce qu'on en discutera aussi entre Lexa, Radger.
Exactement. Et donc, on voit que là, l'embryon de Sens Néant arrive, il n'est pas encore là.
Mais le côté pragmatique est également dû au fait que mon ardent est donc joué par Milan qui est joué par moi.
Mais oui.
Et Milan et moi, on partage un côté qui est d'abord l'observation, l'analyse avant d'agir. Donc pour l'instant, effectivement, je reste pragmatique. J'observe ce qui se passe.
C'était génial.
Et après, je prendrai une décision définitive.
Un passage que j'ai beaucoup aimé avec ton personnage et celui de Bulle, c'est ce moment où vous courez dans les ombres. Et où je vous dis, bah oui, ok, bah qu'est-ce que vous voyez ? Parce que dans les ombres, le maître de jeu n'a absolument pas autorité pour vous dire ce que vous voyez. Donc c'est à vous de dire en fait ce que vous voyez. Il y a un moment donné où vous sentez bien que vous êtes perdu dans votre narration en tant que joueur, et donc perdu dans les ombres en fait. Et quand, en fait, à un moment donné, tu te dis, mais en fait, si je veux que le MJ, si je veux me rattacher à quelque chose de vrai, il faut que le MJ parle, et pour qu'il parle, il faut que j'allume la lumière, quoi.
Il y a eu ça, oui.
Et ça, j'ai trouvé ça assez génial, parce que le fait que ce soit ton personnage, tu vois, le pragmatique, il dit, non, là, j'ai besoin d'une réalité à laquelle m'ancrer. En même temps, quand on sait que Milan, c'est celui qui a le plus en cosmo,
grave,
qui est le symbole de la lumière et compagnie, on voit qu'il y a une vraie continuité, en fait, qu'à travers vos personnages, vous êtes déjà en train
J'essaie vraiment de jouer mon personnage par les yeux de Milan.
C'est cool, tout ça.
Alors, comme il me ressemble assez Milan, ça va, il y a des facilités, mais pas toujours.
Maintenant... qu'une seule envie, c'est de continuer et de savoir si Audrey
moi aussi
va enfin trouver que ça fait sens tout ça et que ça commence à faire Maelstrom ou pas. J'ai vraiment envie de voir aussi, au contraire, ce sera frustré. Merci en tout cas à Julien, merci Antoine, merci Audrey, merci Amir.
Merci.
On va jouer,
merci.
Nous on est en continuité, on joue, vous allez devoir attendre un mois pour voir les conclusions de tout ça. Mais nous voilà, on va jouer tout de suite. Allez, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien, c'est ça qui compte. Salut.